Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur de l'église évangélique d'Orange, de notre union d'église, pour encore 3 mois, après quoi je serai à la retraite, a priori, dans la région de Montpellier. Il y a quelques années, il y a eu dans le monde une conférence dont on a peu entendu parler, qui s'appelle la Conférence du Caire, conférence mondiale dont le thème était l'avenir du monde et le sous-titre « Comment ne pas être 10 milliards dans les 50 ans à venir ?» On n'a absolument rien su des conclusions de cette conférence, mais quand on voit les décisions prises par l'ensemble de nos dirigeants dans tous les pays, on peut deviner un peu quelles étaient les pistes. Tous les pays actuellement font une promotion forte de l'avortement, je dirais d'une manière débridée. L'euthanasie, éliminer les vieux inutiles, c'est à notre porte, hein, et dans beaucoup de pays c'est déjà à l'œuvre. Et puis une promotion, comme on n'a jamais fait, pour une forme de sexualité qui est stérile. Et donc quand on voit tout ça, on se dit, mais comment il se fait que les hommes fassent constamment le contraire de ce que Dieu attend? Puis là, on éteint la télé, et puis on peut se dire, bon, avant de critiquer, est-ce que moi, qui connais Dieu, est-ce que je suis en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en phase? Nous avons un modèle à travers la parole, n'est-ce pas, Jésus-Christ, venu en chair parmi nous. Est-ce que je suis en phase avec ce modèle? Ou est-ce qu'il ne m'arrive pas aussi, à moi, certaines fois, de faire à peu près le contraire de ce qu'il attend de moi? Donc ce matin, je vous propose d'étudier rapidement, survoler, 2 textes qui comparent une attitude de Jésus et une attitude des disciples. Et puis on mettra ces 2 textes ensemble et on en tirera quelques applications. Le premier texte que je vous invite à lire, c'est Jésus et ses disciples dans la tempête, Marc chapitre 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et la mer, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? » Même le vent et la mer lui obéissent. Je vous propose comme titre « L'angoisse des disciples face au sommeil de Jésus ». On va voir si ça marche aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Il y avait une tête qui gênait un peu. L'angoisse des disciples face au sommeil de Jésus. Pour pouvoir comparer des textes, il faut voir si leurs contextes sont semblables. Donc, quel est le contexte ici? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, il y a eu l'annonce du royaume de Dieu. Par plusieurs paraboles, Jésus a annoncé, expliqué, proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a utilisé en particulier les images du grain qui doit mourir pour donner la vie. après notre récit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons entrer dans un combat spirituel contre des démons. Vous savez, la barque va accoster dans un endroit où il y a un démoniaque dans un cimetière dont Jésus va chasser une légion de démons. Mais le cadre de notre texte, c'est aussi un combat, mais c'est un combat qui est physique. C'est une épreuve physique, matérielle. C'est une véritable tempête. Ah, bon, je crois qu'il va falloir que tu me... Non. Oui, c'est bon. Hop. Hein, donc, annonce du salut, je reprends. Combat spirituel, c'est bon. Et donc là, le cadre, c'est une épreuve physique. Dans cette épreuve, le Seigneur ne semble pas la ressentir. Alors que les disciples ont peur, ils sont saisis d'angoisse, et puis humainement, ils ont de quoi. Vous imaginez là combien la situation est préoccupante, réelle, dangereuse. L'eau commence à envahir le bateau, et vous imaginez, l'eau rentre plus vite que les disciples n'arrivent à écoper. Donc c'est vraiment une épreuve douloureuse, difficile. Je crois qu'il n'est pas question ici, ni de ma part, ni de la part de la Bible, de minimiser, ni de mettre en cause la réalité des épreuves que vous vivez, que nous vivons. Que ce soit des épreuves qui touchent la santé, le décès, les problèmes familiaux, problèmes professionnels, problèmes scolaires, ce sont de douloureuses réalités pour nous. Comme nous, dans ces situations, les disciples sont totalement dépassés par les événements. Alors que pour certains d'entre eux, ce sont des professionnels de la mer. Mais ces professionnels, comme dit le prophète Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et qu'est-ce qui frappe les yeux quand vous êtes pris dans une tempête? Ben c'est les vagues beaucoup plus hautes que le bateau. Les vagues qui envahissent le bateau, qui retombent sur le bateau. Et l'eau qui monte sur le fond du bateau. Et donc, l'angoisse. C'est une épreuve palpable. On peut dire une épreuve dans laquelle on baigne, et les disciples baignent littéralement. Et pourtant, Jésus affirme que cette angoisse est une mauvaise angoisse, qu'elle est inutile, qu'elle est déplacée et qu'elle est sans fondement. Verset 40, il leur dit, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? En gros, pourquoi n'avez-vous pas pris mon modèle dans cette situation? Pourquoi n'avez-vous pas imité mon attitude? Moi, dans cette situation, je vous ai montré la solution, la paix, le repos, le sommeil du juste qui a la conscience en paix et qui s'abandonne confiant dans la souveraineté de Dieu. Pourquoi la conscience en paix? Ben parce que je viens toute la journée d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi dans ces moments-là, dois-je m'appuyer sur la souveraineté de Dieu? Mais Dieu m'a donné rendez-vous sur une colline à Jérusalem. Donc il est hors de question qu'il m'arrive quoi que ce soit avant. Enfin, pourquoi un abandon confiant? Mais parce que l'impossibilité humaine d'intervenir est évidente. Aucun homme n'intervient sur une tempête. En Luc 12, 25, Jésus va leur dire « Mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» Et il continue au verset 31 « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La vraie question adressée aux disciples, c'est donc, mais vous êtes-vous occupé du royaume? Et les disciples peuvent répondre, oui Seigneur, on a passé la journée à annoncer l'évangile avec toi. Alors, faites confiance. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Et je trouve que ce texte est pour nous qui sommes si facilement inquiet. Mes amis, face à l'inquiétude, faisons ce que Dieu nous demande et appuyons-nous sur lui pour ce qui nous dépasse. Mais ne nous accablons pas d'angoisse pour ce qui nous dépasse. Dieu sait très bien que cela nous dépasse. J'ai à cœur de vous relire l'exhortation de l'introduction à 2e épître aux Corinthiens. Jésus-Christ, le Père des miséricordes, est le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. À vous qui pouvez traverser une épreuve ce matin, soyez encouragés par la consolation du Dieu souverain. Et je fais remarquer que ce bon sommeil de Jésus, ça n'a rien à voir avec de la résignation. C'est vraiment de la dépendance de Dieu. C'est un abandon confiant. L'angoisse des disciples face au sommeil de Jésus. Deuxième texte, je vous ai dit qu'on ne faisait que les survolés, Marc 14, Jésus-Christ et les disciples dans le jardin de Gethsémané. Marc 14, à partir du verset 32. Il, donc Jésus et ses disciples, se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Dans cette nouvelle version, j'ai « éveillé » en un seul mot, et il me semble que dans mon ancienne version, j'avais « éveillé ». C'est intéressant. Puis, il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une heure. Restez vigilant, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me trahit s'approche. » Titre de ce texte, l'angoisse de Jésus face au sommeil des disciples. Vous rappelez le contexte du précédent, celui-ci est assez proche. Avant, il y a eu l'annonce du royaume de Dieu. Et là, avant le jardin de Gethsémané, il y a eu l'annonce du royaume de Dieu. Il y a eu l'institution de la scène par laquelle Jésus affirme la victoire par avance du royaume, le prix extraordinaire que le salut va lui coûter. Et là encore, dans son discours, il y a cette notion de mourir pour donner la vie. Après notre texte, il va y avoir cette terrible épreuve physique qu'est la passion suivie de la crucifixion. Mais le cadre de notre texte, le cadre, lui, c'est un combat spirituel extrêmement intense, où les tentations assaillent aussi bien Jésus dans son domaine que les disciples, chacun à leur niveau, bien sûr. Donc ici, le combat, l'épreuve n'est plus physique, elle est spirituelle. Mais cette épreuve est aussi préoccupante, critique. La tentation est dangereuse. Vous vous rendez compte? Si Jésus avait décidé de passer à côté de la croix, comme il en avait le pouvoir. Et cette fois-ci, ce sont les disciples qui ne semblent rien ressentir du tout. L'angoisse, c'est celle du Seigneur. Verset 33. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ça vous paraît pas bizarre, ça? Jésus avoir des angoisses? Étonnant, non? Donc, attribuer au Christ, ça veut dire que c'est une bonne peur, que c'est une saine angoisse. Je ne sais pas si ça existe, les saines angoisses, mais Jésus ne peut pas avoir une mauvaise angoisse. Je crois que cette peur, c'est celle du guerrier. Cette peur, c'est celle du combattant devant l'ampleur et la violence du combat à venir. C'est celle du combattant qui est conscient de l'étendue du champ de bataille, de l'effort qu'il va falloir fournir, et qui est conscient aussi des conséquences effroyables qu'aurait une défaite. Parce que mes amis, le vrai courage, ça ne consiste pas en l'absence de peur. Ça, c'est de l'inconscience. Le vrai courage, ça consiste à savoir gérer sa peur, à combattre malgré sa peur. D'où cet aveu du Seigneur: Père, tu sais la peur que m'inspire ce combat, éloigne de moi cette coupe. Puis le retour immédiat à cette saine gestion de l'angoisse par une dépendance totale en ce Dieu qui a lui-même établi le plan de bataille dans ses moindres détails. Ce qui permet à Jésus de dire au verset 36, finalement, ce que tu veux. Et de nouveau, je fais remarquer que l'attitude des disciples est à contre-temps de la volonté du maître. Alors que celui-ci vit, gère frayeur, angoisse, et qu'il aimerait en partager le fardeau avec ses plus proches amis, les disciples qui n'ont rien compris s'assoupissent. Peut-être le cœur rempli de chagrin, ou de crainte, ou de déception, toujours est-il qu'ils dorment. Et par trois fois, le Seigneur va leur reprocher ce mauvais sommeil, ce repos trompeur, déplacé, incongru dans cette situation. Verset 37, il dit à Pierre, « Simon, tu dors, t'as même pas pu veiller une heure. » Vous avez vu, il appelle Pierre Simon. Il le traite de Simon, son nom d'avant qu'il soit disciple. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est extrêmement grave de dormir dans les moments où le Seigneur nous attend au combat. Quel piège lorsque nous avons trop sommeil, ou que nous sommes trop fatigués, trop sommeil pour prier, trop fatigués pour prier, trop déçus pour prier. Et maintenant, mettons ces deux textes en parallèle et reposons-nous la question initiale. Nous, chrétiens, ici, à Orange pour moi, à Montpellier pour vous, disciples de Jésus-Christ, est-ce que notre vie est en harmonie avec celle du Christ? Est-ce que notre comportement dans chaque type d'épreuve est conforme au modèle? Est-ce que nous avons le discernement spirituel pour avoir dans chaque cas la bonne attitude? Ou bien, à l'instar de ces hommes que nous jugeons si facilement, sommes-nous en déphasage par rapport à la volonté de Dieu? À contre-temps. Quand Jésus dort en paix, les disciples sont angoissés par le danger. Quand Jésus est angoissé par le danger, les disciples dorment, totalement inconscients. Quand Jésus ne tient pas compte des vagues de la tempête physique, tant il est en paix dans le repos, les disciples sont accablés, angoissés devant l'épreuve, en voyant déferler ces vagues. Quand Jésus voit venir cette terrible tempête spirituelle qui est devant lui, et qu'il est angoissé, les disciples qui ne voient rien venir s'accordent un repos bien mérité. C'est là qu'on aurait dû les trouver, inquiets, groupés autour du Seigneur. « Bon Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et nous ? Ce déphasage était déjà annoncé. Vous connaissez le prophète Ésaïe, Ésaïe 55, 8 et 9. On peut le lire. Ésaïe 55, versets 8 et 9. En effet, dit Dieu, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. C'était déjà annoncé. Mais normalement, la venue de Jésus-Christ a changé tout cela. Lui nous a apporté la solution. Lui nous a permis de connaître ses voies et ses pensées. Il a descendu la volonté de Dieu à notre portée. Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Des versets archi connus, mais tellement durs à vivre, parce que nous sommes tellement lents à comprendre ce que veut le Père. Certains vont prétendre, « Ah Seigneur, moi je suis tellement accablé par cette épreuve, j'ai le blues. Mais j'ai lu dans ta parole que toi aussi t'as été angoissé, alors ça me rassure. Je suis conforme à mon modèle divin. » Mais posons-nous la question dans ce cas-là. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir les yeux, avoir un peu de discernement? Est-ce que nous sommes ou pas à la pointe du combat spirituel? Est-ce qu'au contraire, le contexte dans lequel nous vivons telle épreuve ne serait pas plutôt un contexte d'épreuve humaine, physique? Si c'est le cas, bien sûr qu'elle nous dépasse. Bien sûr qu'il nous est impossible d'intervenir humainement. Dieu sait très bien que votre problème vous dépasse. Et le modèle qu'il vous offre dans cette situation, c'est le repos. Le repos du Seigneur. Le repos confiant, l'abandon confiant dans la souveraineté absolue de Dieu. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation qui nous console. Donc face à l'inquiétude, faites ce que Dieu vous demande, c'est-à-dire annoncez l'évangile du royaume et appuyez-vous, reposez-vous sur lui pour tout ce qui vous dépasse. Mais surtout, ne vous accablez pas pour ce qui vous dépasse. C'est l'affaire de Dieu, pas la vôtre. Jouissez du vrai repos, de la paix de Dieu, de la vraie consolation. Je sais, c'est pas facile. Je me rappelle il y a de nombreuses années avoir vécu une période de licenciement, donc tempête physique. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Ben, sur ce coup-ci, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon du tout. L'angoisse était là. Alors que la solution de Dieu, c'est la paix, le repos, s'appuyer sur lui. D'autres, à l'inverse, vont se dire, « Ah Seigneur, j'ai tout compris. Et dans mes problèmes, je jouis de la paix. Je profite d'une retraite bien méritée. Je dors du sommeil du juste. Et je suis conforme à mon modèle. C'est ce que tu as fait, toi. » Et là, à nouveau, il faut se poser la question, mais ouvrons les yeux. Est-ce que nos problèmes ne seraient pas qu'un écran de fumée pour nous masquer un champ de bataille spirituel? Mes amis, nous sommes dans une tempête spirituelle, dans un pays en guerre, et peut-être que nous nous sommes petit à petit laissés paralyser par l'angoisse, ou qu'on a laissé l'indifférence s'installer, ou même qu'on a renoncé au combat. Dans ce cas-là, nous sommes dans un repos trompeur, qui est en fait un assoupissement. Nous sommes trop fatigués. Dans ce cas-là, je vous dirais, souvenez-vous de votre zèle de jeune converti, il y a peut-être 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Là aussi, c'est pas évident. À Orange, on a la chance d'avoir un nouveau prédicateur. On a un membre de l'église qui petit à petit s'est formé, et là, aujourd'hui, il prêche à ma place, c'est la première fois qu'il prêche. Et nous, les anciens, on s'est dit, super, cool. Enfin, quelqu'un qui se lève, qui s'engage dans un service, qui fait. Et on était ravis, et on était en paix. Et ces 2 derniers mois, je ne me souviens pas qu'on ait fait autre chose que d'être content, satisfait d'avoir quelqu'un qui se met en prédication. Et ce frère est venu nous voir avant-hier et nous a dit, à la maison cette semaine, ça a été terrible. Terrible. Et je me dis, on a loupé le coche, les anciens. On a, une fois de plus, pas été à la hauteur. On a confondu. On a été en paix alors qu'on aurait dû se dire, un nouveau qui commence à prêcher, bonjour le combat spirituel. Réveillons-nous, bougeons-nous, prions pour ce frère, prions pour sa famille, soutenons-le dans ce combat qui est le sien pour préparer une première prédication. Donc vous voyez, ça va vite de faire le contraire. Et de ne pas se rappeler, mais le Seigneur, quand c'est spirituel, il combat, lui. Il ne s'endort pas. Et les disciples, eux encore, ils avaient une excuse, parce qu'ils ne connaissaient pas encore le prix de la croix. Et j'imagine le réveil des disciples. Ça a dû être dur. Se réveiller pour voir le Seigneur arrêter, les mains dans le dos, les menottes et tout, puis frapper. Vous connaissez la suite. Vous en avez parlé la semaine dernière pour Pâques. Et nous, mes amis, n'avons-nous pas besoin parfois d'un tel réveil? Certains ont été choqués par le film de Mel Gibson là, sur la croix du Christ, parce qu'il y avait du sang partout. C'est peut-être choquant, mais c'est loin du compte de toutes les souffrances que le Christ a vécues pour nous. Alors, ouvrons nos oreilles. Ouvrons nos oreilles. Notre Seigneur, dans certaines situations, nous appelle au combat. Ouvrons les yeux. Regardons la misère du monde qui se perd autour de nous. Comptons les victimes parmi nos voisins, parmi nos collègues de travail, parmi tous les gens qu'il y a dans nos rues. Ouvrons notre mémoire. Reprenons en compte les conséquences que nous connaissons intellectuellement de l'enfer qui attend toutes ces victimes de notre assoupissement. Notre Seigneur, lui, a un cœur de père qui saigne devant toutes ces victimes qu'il aime tant. Mes amis, je vous rappelle que nous sommes ambassadeurs pour Christ, nous dit la Bible. Alors posons-nous la question, mais depuis combien de temps le message du royaume, qui est dans le contexte de ces 2 épreuves, depuis combien de temps le message du royaume que nous représentons n'a-t-il pas retenti dans nos bouches? Serions-nous des ambassadeurs en retraite ou en club vacances ou en disponibilité pour convenance personnelle ou en cure de sommeil? On pourrait allonger la liste. Là, j'ai pris que 2 textes. On peut allonger la liste des textes qui montrent les décalages d'attitude entre Jésus et ses disciples. Vous pouvez les, les étudier chez vous. Quand Jésus guérit et dit aux disciples, aux nouveaux disciples de se taire, ben le disciple y parle. Quand Jésus lui dit, maintenant tu rentres chez toi, ben le nouveau disciple y reste et il suit Jésus. Quand Jésus accueille les enfants, les disciples les repoussent. Quand Jésus se réjouit, les disciples s'offusquent. Quand Jésus pleure, les gens autour de lui s'interrogent. Lorsque Jésus annonce la paix, les disciples cherchent à faire tomber le feu du ciel. Quelque part, on peut se dire, ben, j'ai pas à culpabiliser. Alors, si ces grands serviteurs de Dieu en étaient là, finalement, ça se comprend que je ne sois pas bien plus avancé. Oui, mais moi, j'ai le Saint-Esprit en moi qu'il n'avait pas à l'époque de l'Évangile. Je conclus. Quand il aurait fallu être dans le repos, les disciples angoissaient, stressaient. Quand il aurait fallu partager le fardeau du maître, les disciples dormaient. Et moi, ne suis-je pas trop souvent en décalage par rapport à la volonté du maître? Mais heureusement, ce qui me rassure, ce qui m'encourage, ce qui m'aide à ne pas rester sous une chape de culpabilité, c'est que le Seigneur continue malgré tout à m'appeler son ami. Pierre, qui était en décalage constant avec son maître, vous vous rappelez, quand il veut lui laver les pieds, il dit « Hop, surtout pas moi ». Quand Jésus dit quelque chose, il dit « Non, non, Seigneur, ça, pas question ». Un disciple qui arrive à dire non à Jésus, il faut le faire quand même. Hein? Et bien Jésus continue à l'appeler « mon ami ». Et après la résurrection, il va lui dire « Toi ».